10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous dans un paysage politique bouleversé et avant un remaniement imminent, probablement dès demain. Votre émission dominicale accueille deux invités politiques à partir de 10h30. C'est le député européen LR François-Xavier Bellamy qui sera avec nous. Mais tout d'abord, et pour ouvrir cette émission, il est aussi député européen, président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour vous interroger à mes côtés. Mes camarades Nicolas Barré, Les Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sonia.
Et le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous Mathieu.
Bonjour.
Jordan Bardella, le nouveau président de la Commission des finances, Éric Coquerel, fait l'objet d'accusations. Il y a les attaques politiques dont on va parler. Il y a aussi le domaine des violences sexuelles autour de son comportement, ou présumé comportement. Il se défend ce matin dans le JDD, Éric Coquerel, et dénonce des rumeurs. Que dites-vous ce matin? Est-ce que, d'abord, vous mettez en avant la présomption d'innocence ou bien est-ce qu'il y a un principe de responsabilité politique?
Mais il y a surtout une lutte intraitable à avoir contre les violences faites aux femmes. Mais en l'occurrence, ici, je ne suis pas l'avocat d'Éric Coquerel, mais on parle de rumeurs. Donc je ne vais pas commenter les rumeurs, on se prononcera s'il doit y avoir des plaintes. S'il y a une plainte, il y aura une enquête, il bénéficiera dans le cadre du droit français de la présomption d'innocence. Et puis s'il y a plainte et une condamnation derrière, eh bien à ce moment-là, il sera condamné, il devra en tirer toutes les conclusions. Mais pour l'instant, ce sont des rumeurs. Donc depuis plusieurs jours, on nous dit « qu'est-ce que vous pensez de ces affaires ?» Mais je veux dire, c'est difficile de commenter des affaires sans avoir le moindre élément et en ne s'appuyant que sur des rumeurs et des bruits de couloir.
Parfois, ce même type d'affaires a été commenté avant qu'il y ait formellement plainte. Je pense au ministre Damien Abad. Est-ce que vous pensez qu'il y a une indignation à géométrie variable entre ce ministre et
Éric Coquerel? Je pense qu'il y a une indignation à géométrie variable de la part de la gauche notamment, et notamment de la part de Madame Rousseau. Qui, il y a quelques jours, a appelé à la démission avec force, d'ailleurs, du ministre Damien Abad, contre qui une enquête a été ouverte, même s'il bénéficie, encore une fois, je le rappelle, de la présomption d'innocence, donc il n'y a pas eu de condamnation, et qui voit pour le coup, à l'inverse, quand ça concerne quelqu'un de son camp, qui, encore une fois, n'a pas été condamné, il n'y a pas d'enquête, mais ne voit aucun problème à dire qu'il doit rester en pause. Donc il y a toujours, effectivement, une gauche à géométrie variable dans le pays, c'est vrai.
Alors, sur le plan politique, Éric Coquerel a tenu un discours qui se veut rassurant après son élection à la présidence de la Commission des finances, en affirmant que cette commission ne serait pas un instrument de contrôle fiscal. Est-ce que vous avez été rassuré et convaincu ?
Non, pas du tout. Je pense que Éric Coquerel est l'aile gauche de l'extrême gauche. Je pense qu'il a montré tout au long de son parcours politique. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il soutenait l'occupation par des clandestins de la basilique de Saint-Denis. Je vous rappelle qu'il avait incité la totalité des cadres de la France insoumise à se rendre dans cette grande marche de la honte en novembre 2019 à proximité du Bataclan, où la gauche a manifesté à côté du CCIF, les islamistes du CCIF, qui est un collectif qui a été dissous par le gouvernement pour sa proximité avec l'idéologie islamiste et qui partage toutes les thèses islamo-gauchistes. Donc je ne suis pas rassuré en voyant quelqu'un qui émane d'un mouvement politique qui, en matière économique, veut transformer la France en Venezuela, et qui, s'agissant du reste, c'est des sujets de société. Il a été élu, mais je veux dire, il y a quand même une tromperie sur cette affaire.
C'est-à-dire ?
Depuis 2007, il y a une tradition républicaine qui veut que la présidence de la Commission des finances, qui contrôle le budget de l'État, revienne au premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national, avec 89 députés, est la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Il y a eu un tacite accord implicite qui ne dit pas son nom entre tous les mouvements politiques pour écarter le Rassemblement national. Genre, les Républicains, en fait, la leçon il faudra peut-être interroger la personne qui va me suivre.
François-Xavier Bellamy.
Exactement, ouais. à cette place. Mais les Républicains avaient la possibilité de choisir entre un gaulliste présenté par le Rassemblement national, qui a travaillé avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est député de la Somme, qui nous a rejoint, qui est aujourd'hui un élu reconnu, crédible du Rassemblement national. Ils ont préféré s'abstenir et choisir
juste
Monsieur Coquerel. Donc
sur
un axe
président...
LR, la France insoumise, c'est extrêmement étonnant.
Oui.
Et moi, je déplore que les députés des Républicains aient manifestement davantage peur de l'avis de Sandrine Rousseau que de celui de leurs
propres
électeurs.
Selon le président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marleix, aucune arithmétique ne permettait de battre le candidat de la NUPES. Seule la majorité avait ce pouvoir. Alors, pourquoi incriminer les LR ?
Non, c'est faux. Il y avait 8 voix des LR, 2 voix de liberté et territoire. Et en vérité, au troisième tour, on a vu le candidat de la droite et du centre, Charles de Courson, se retirer de crainte d'être éventuellement élu avec les voix du Rassemblement National, parce que nous, on aurait pris nos responsabilités. C'est-à-dire, nous, entre un président de la commission des finances responsable des Républicains et un militant d'extrême-gauche, moi, ma main n'aurait pas tremblé s'agissant de ce choix-là.
Mais est-ce qu'on peut dire que le Front républicain, dont plusieurs parlaient, fonctionne désormais un jour sur deux ? C'est-à-dire une journée, vous avez 2 vice-présidences à l'Assemblée nationale, le lendemain, vous n'avez pas la présidence de la commission des finances ?
Non, le Front républicain, si vous voulez, a été mis en place par le système pour nous empêcher d'accéder à l'Assemblée nationale. On voit que ce Front républicain est aujourd'hui tombé, qu'il n'y a plus de plafond de verre. Et peut-être la plus grande victoire de Marine Le Pen en 10 ans est d'avoir, par la stratégie qu'on a appelée de la normalisation, transformer le Rassemblement national, qui était un parti de contestation, de témoignage, en un parti de second tour. On voit que dans des régions où peut-être le mouvement était historiquement plus faible, je pense à la Nouvelle-Aquitaine, nous obtenons 6 députés et 89 députés au total. On a même failli avoir un député, d'ailleurs, en Guadeloupe. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'entente entre les gens qui dirigent le pays depuis des années à l'Assemblée nationale pour nous empêcher d'avoir des postes. Je quémande rien du tout. Je dis juste que le Rassemblement national n'est pas un parti de seconde zone, que nos électeurs ne sont pas des citoyens de seconde zone et que nous avons droit. Écoutez, ces manœuvres le disent d'elles-mêmes. Quand j'entends des partis, et notamment toute la gauche, s'indigner de la présentation de candidats par le RN à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, à la question au secrétariat de l'Assemblée, ces gens-là ont un problème avec la démocratie. Donc, nous sommes entrés à l'Assemblée nationale, le peuple est entré à l'Assemblée nationale, et il est normal que certains postes de vice-présidence de ce qui est la maison du peuple français reviennent.
Et
je me réjouis que Sébastien Chenu et Hélène Laporte, qui sont des députés de qualité et compétents, puissent accéder à ces postes qui sont aussi des postes de représentation pour nos électeurs.
Vous-même, n'avez-vous pas bénéficié du jeu, si je puis dire, des alliances, justement, pour avoir ces 2 présidents, vice-présidents RN. Donc, à un moment, vous les dénoncez, et puis quand ils vont dans votre sens,
mais ce ne sont
pas
des alliances. On est en démocratie, il y a des règles républicaines. La règle républicaine.
Ça vaut aussi pour l'opposition quand elle choisit
d'autres candidats. La règle républicaine, ça veut dire que, il y a une tradition qui est inscrite dans le règlement intérieur de l'Assemblée, qui dit que la présidence de la commission des finances, parce qu'elle contrôle l'application du budget de l'État, revienne au premier groupe d'opposition. Nous sommes le premier groupe d'opposition, et je peux vous assurer que sur les 5 dernières années, avec 5 députés sur 577, nous réalisons 42% des voix à la présidentielle. Alors je vous laisse imaginer en 5 ans avec 89 députés.
Mais j'y reviens. Est-ce qu'on ne s'est pas retrouvé devant un scénario tout sauf le RN pour ce poste en particulier ?
Non, on s'est retrouvé devant la déchéance des Républicains. Voilà, je veux dire, est-ce que les électeurs...
Mais je
pose la question au cadre des Républicains, au président Marleix, président de groupe DLR. Je leur dis, mais est-ce que vos électeurs comprendront que vous préférez un cadre de la France insoumise plutôt qu'un gaulliste du Rassemblement national ? Comment pouvez-vous expliquer cela à vos électeurs ? Et ce qui s'est passé est l'énième symbole des reniements des Républicains qui amènent aujourd'hui les Républicains à 4% à la présidentielle et probablement beaucoup de LR à voter pour nous.
Vous êtes le seul parti d'opposition. J'ai reçu il y a quelques jours Olivier Marleix, il me dit nous on est clairement dans l'opposition, il n'y a pas d'alliance avec Emmanuel Macron, il ne s'agit pas de préférer un parti ou un autre, nous sommes autonomes et dans l'opposition. Pourquoi vous lui reniez le fait d'être dans l'opposition ?
Pour qui a appelé à voter au second tour l'élection présidentielle la candidate de M. Marleix ?
Et donc, vous en faites de fait un parti allié à Emmanuel Macron.
Excusez-moi, Valérie Pécresse et les cadres des Républicains ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc, comment on peut s'opposer à un candidat qu'on a fait élire ? C'est une forme de schizophrénie. Idem avec la gauche. La gauche n'est pas l'opposante à Emmanuel. Ils ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron doit son élection à l'apport de voix de Jean-Luc Mélenchon. Donc, on ne peut pas s'opposer à quelqu'un qu'on a fait élire. Et réciproquement, d'ailleurs. Permettez-moi de vous rappeler que La République En Marche, et d'ailleurs plusieurs ministres l'ont déclaré, La République En Marche, lorsqu'elle n'était pas présente au second tour des législatives et qu'il y avait des second tours entre l'extrême-gauche et le Rassemblement national, a appelé à voter pour l'extrême-gauche. Donc dans aucune autre démocratie au monde, mature et moderne, le pouvoir choisit son opposition. Pouvoir choisit son opposition, c'est que l'opposition n'est pas l'opposition.
Est-ce qu'avec 89 députés, vous estimez que vous entrez dans une autre logique par rapport à la majorité, par rapport à d'éventuels soutien ponctuel sur certains textes, etc.
Je pense que le Rassemblement national est devenu, est en train de devenir, et c'est probablement là l'étape la plus décisive, une formation de gouvernement. Et que nous avons vocation à gouverner. Mais c'est normal, puisqu'on veut lui prendre sa place. Donc, si vous voulez, c'est normal qu'il soit en désaccord avec nous.
Ça m'intéresse que vous y répondez. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes un parti de second tour, mais pour Emmanuel Macron, vous n'êtes pas un parti de gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Et je manifestement, lui non plus, parce que celui qui est mis en minorité aujourd'hui, c'est lui. Et que s'il n'ignorait pas les souffrances des Français depuis son élection... Mais attendez, je veux bien que vous vous rassuriez sur la majorité relative.
Nous n'avons pas à être rassurés. C'est
Emmanuel Macron a été mis en minorité. Le pays est bloqué aujourd'hui du fait du désintérêt total d'Emmanuel Macron pour le sort des Français. Depuis qu'il a été réélu, depuis le mois d'avril, qu'a-t-il fait sur le pouvoir d'achat, l'urgence du pouvoir d'achat ? Rien. Qu'a-t-il fait sur la sécurité ? Rien. En revanche, je vais vous répondre, pour répondre très clairement à votre question, l'effet levier de ces victoires RN aux législatives et de l'arrivée d'un groupe puissant du RN à l'Assemblée, c'est d'abord le pouvoir d'achat comme premier sujet de discussion à l'Assemblée nationale, et deuxièmement, les aveux timides du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, sur sa responsabilité dans le chaos du Stade de France. On est passé du déni à des excuses timides. Pendant un mois, il a accusé la billetterie d'avoir agressé les supporters de Londres. Là, il se rend compte et il commence à avouer qu'il y a un problème de sécurité en France. Donc, nous serons là à l'Assemblée nationale pour faire entendre la voix des Français, la voix du peuple français. Et quand ils s'en prendront au peuple français avec une politique sociale qui est, je crois, très brutale, nous serons là.
Vous confessez, vous avez une forme de déception par rapport aux Républicains qui auraient dû voter pour vous, si on comprend bien, avec l'argument gaulliste. On présentait un gaulliste, il aurait dû être compatible avec eux. Est-ce qu'il devrait y avoir des points de convergence entre vous et les Républicains aujourd'hui ?
Je pense qu'une grande partie des électeurs des Républicains, d'abord, ont déjà quitté les Républicains.
Mais voudriez-vous vous entendre avec les députés républicains ?
Non, mais moi, je dis aux gens qui sont encore tentés de voter pour LR, regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale dans le cadre de la présidence de la Commission des Finances. Regardez vos candidats préférés Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Regardez vos candidats préférés la France Insoumise au Rassemblement National. Donc je leur dis, faisons un bout de chemin ensemble. Et d'ailleurs, au cadre sincère de LR, qui ne veulent pas rejoindre l'armée d'Emmanuel Macron et qui ne veulent pas se complaire dans des magouilles avec la France Insoumise, bien, je leur dis, mais travaillons ensemble.
Donc vous faites l'union des l'intérêt... droites aujourd'hui.
Écoutez, bah, nous avons réuni...
Voulez, non, mais on l'appellera, c'est un fait.
On peut l'appeler comme on veut. Mais je pense que je pense que le patriotisme n'est pas de droite, il n'est pas de gauche. Mais je pense qu'il y a toute une partie de l'électorat LR qui est orphelin et avec qui nous avons vocation à faire un bout de chemin. C'est évident.
On va marquer une pause parce que le bout de chemin aussi, il concerne surtout la France. Vous avez parlé des sujets très importants, évidemment. Pouvoir d'achat, sécurité, finance également dans notre pays. On marque une courte pause et on se retrouve sur CNews et Europe 1.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et deux invités pour ce grand rendez-vous. Tout à l'heure, ce sera l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. Pour l'heure, nous sommes avec le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Nous allons évoquer avec vous dans cette seconde partie les défis du quinquennat Emmanuel Macron. Bien sûr, l'urgence sociale liée au pouvoir d'achat. Mais tout d'abord, une question sur le président et la guerre en Ukraine. Avez-vous vu, Jordan Bardella, le documentaire qui a été diffusé jeudi soir sur France 2 au cœur de la guerre et de la diplomatie d'ailleurs française, les portes de l'Élysée ouvertes. On a entendu différents présidents dialoguer avec le président français. Qu'en avez-vous pensé ?
Le président me fait plus penser à un influenceur qu'au général de Gaulle. Et que ces exercices de mise en scène narcissique, où on révèle quand même des discussions avec des chefs d'État. Enfin, je veux dire, ce qu'il fait, c'est tout le contraire de la diplomatie. La diplomatie, c'est une injonction à l'humilité, c'est une injonction à la discrétion et à la responsabilité. Et de voir le président de la République se mettre en scène comme un acteur Netflix ou Amazon Prime pour mettre sur la place publique les échanges, d'abord se mettre en scène et les échanges extrêmement confidentiels qu'il a avec des chefs d'État, moi je trouve ça choquant. Je pense qu'il y a deux sujets. D'abord, on peut évidemment avoir des vidéos, des accès privilégiés, des documentaires qui se font sur les coulisses des G7, et je pense qu'il y a un exercice de transparence à avoir. Mais je veux dire, la manière dont c'est fait Et la manière dont on divulgue des informations qui sont des informations confidentielles, qui peuvent même agiter le niveau de tension. Est-ce que les chefs d'État qui sont enregistrés en discussion avec Emmanuel Macron sont au courant qu'ils sont enregistrés par les services de l'Élysée pour des vidéos promotionnelles du président de la République ?
Est-ce que vous n'y avez
Je
pas
ne
vu
le crois pas.
Aussi une France au cœur justement des discussions, une France qui arrive à faire parler certains. Est-ce que vous avez retenu aussi cela de
non,
ce documentaire
ou
rien
je,
n'a trouvé grâce à vos
Macron
yeux ?
Je pense que Emmanuel Macron confond le... Je pense qu'il, pour lui, la présidence de la République est un exercice de jouissance. Voilà, c'est pas un exercice de service. Être président de la République, c'est servir la France, servir les Français. Or, on a un peu le sentiment, si vous voulez, que la seule chose qu'il nous livre depuis sa réélection, rien sur les urgences du moment dont on a parlé, dont on va probablement reparler. En revanche, on se met en scène dans des films. Voilà. Donc je trouve ça un peu dommage.
Difficile de dire rien sur le pouvoir d'achat dont on va parler.
Je pense que si rien, je veux dire, il a été réélu il y a deux mois. Ouais. Sur le pouvoir d'achat, rien.
Alors,
rien. L'inflation augmente.
Le chèque alimentation,
les prix des carburants.
On ne va pas vous faire la liste Prévert.
Là, on parle d'une discussion qu'on va avoir en juillet pour probablement une entrée en application au mois de septembre.
Ouais.
Donc, je veux dire, il a été réélu en avril. Il ne sait rien passé. Est-ce que les Français qui nous regardent sont capables de citer plus de trois mesures du projet d'Emmanuel Macron pour ce nouveau quinquennat, à part la retraite à 65 ans ?
Est-ce que vous en êtes capable ? Trois mesures du programme d'Emmanuel
Macron ? Mais non, je n'en suis pas capable, parce que je ne sais pas.
Non, mais vous les connaissez. Là, c'est pour caricaturer, dire qu'il n'y a pas de programme.
Ok, donc la réforme à 65 ans, l'échec.
L'école, l'hôpital, il n'y a rien ?
L'hôpital, on a annoncé une mission flash. Ça fait 10 ans que l'hôpital s'effondre, ça fait 10 ans qu'ils ferment des milliers de lits à l'hôpital public, il y a eu un Ségur de la santé, et là on nous dit on va créer une mission flash sur l'hôpital. Ah si, je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont faire la retraite à 65 ans, ils vont continuer de multiplier les accords de libre-échange, ils vont continuer d'augmenter les taxes sur les carburants, ils vont continuer à faire rentrer des centaines de milliers de personnes chacun dans notre pays. Je sais ce qu'ils vont faire. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis au gouvernement, mais donnez-nous un cap, quelle est votre feuille de route?
Alors,
pour l'instant, les Français
ne
la voient pas.
Sur les urgences sociales dont vous parliez, sur le pouvoir d'achat, etc. Quelle va être votre stratégie ? Quel va être votre rapport par rapport à ce projet qui va être présenté dans quelques jours ?
Je pense que la logique de chèque, qui est une logique inflationniste, dans laquelle va s'engager le gouvernement, n'est pas la bonne mesure. Elle n'est pas la bonne mesure parce qu'en réalité, avec le ciblage qui est fait, qui est généralement très mal fait. Moi, je suis député européen, j'ai reçu le chèque énergie, par exemple, et on a d'autres de nos parlementaires qui reçoivent les chèques. Bon, ces chèques-là sont destinés aux bénéficiaires des minima sociaux. C'est très bien, on aide les Français qui en ont le plus besoin. Mais on oublie totalement les classes moyennes. On oublie totalement les millions et millions de Français qui travaillent, qui sont trop riches pour rentrer dans la case des minima sociaux et qui ne sont pas assez riches pour rentrer dans les cases à qui le gouvernement fait des cadeaux fiscaux importants.
Donc vous présenterez des amendements à ce projet.
Mais vous ne vous opposerez pas, évidemment, aux aides
s'il y a des urgences à voter, on les votera. Mais on va surtout proposer ce que nous ferions à la place.
Ouais.
Et ce que nous ferions à la place, c'est trois choses. D'abord, c'est la baisse des taxes. C'est de baisser notamment sur les carburants, l'électricité, le gaz, le fuel, la TVA de 20% à 5,5% pour rendre du pouvoir d'achat immédiatement.
Là aussi,
en France, il y a 60% de taxes.
Vous critiquiez le fait que certaines aides, certains chèques sont donnés à tout le monde. Là,
ça arrange
tout le monde.
Là.
Si on baisse les taxes,
ça arrange les gens qui ont besoin de leur
les
voiture.
Les gens riches comme les gens en pauvre.
Vous pouvez toujours prendre le 0,01% de Français hyper riches qui roulent en Porsche, mais eux, de toute manière, une aide ou une autre, ils n'en auront pas besoin.
Aussi.
Donc, je pense qu'il faut baisser les taxes sur les carburants. Deuxièmement, il faut augmenter les salaires, parce que tout augmente sauf les salaires. Et nous, ce qu'on propose, c'est de permettre à tous les chefs d'entreprise, on passe un deal gagnant-gagnant avec eux, vous augmentez de 10% l'ensemble des salaires de votre entreprise. En contrepartie, ces 10% de salaires sont exonérés de cotisations patronales pendant 5 ans. Et troisièmement, il faut retrouver la maîtrise des prix de l'énergie. Aujourd'hui, les prix de l'électricité au niveau européen sont adossés au prix du gaz. L'Espagne et le Portugal viennent de prendre des mesures de souveraineté nationale. Ils viennent de sortir de cette clause du marché européen de l'électricité et projettent sur les 6 prochains mois de baisser de 30% les prix de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité et le gaz sont adossés, alors même que 92% de l'énergie qui est produite en France ne dépend pas d'énergie fossile.
L'avez-vous dit, Elisabeth Borne ? Vous avez rencontré la Première ministre il y a quelques jours. D'ailleurs, c'est mercredi qu'elle tiendra son discours de politique générale. Bon, au-delà de la question de savoir si elle doit ou pas passer par un vote de confiance, vous pensez qu'elle doit passer par ça, mais est-ce que vous avez eu cet échange nourri ? Est-ce que vous avez mis sur la table vos discussions ? Est-ce qu'il peut y avoir au service des Français des plus modestes quelques points d'accord ?
Mais ils ne veulent pas. On lui a proposé, avec Marine Le Pen, nous avons rencontré la Première ministre mercredi soir, mais rien, et de toute manière, ce n'est pas elle qui prend la décision. Voilà, c'est le président de la République. Or, le président de la République ignore totalement les souffrances des Français. Ils ne voient pas qu'il y a des millions de gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à faire le plein de la totalité de leur, du plein de leur voiture, qui voient l'alimentation exploser, qui n'arrivent plus à se nourrir, qui n'arrivent plus à se chauffer.
On annonce une multiplication. D'où la baisse de
D'abord, le chèque, c'est un one-shot. Vous l'avez une fois et terminé. La baisse des taxes que nous proposons, elle est pérenne. Mais, nous proposons également que sur l'alimentation aujourd'hui, on sort totalement la TVA, on exonère de TVA un panier de 100 produits de première nécessité. Vous me dites, tout le monde va en bénéficier. Mais évidemment que les produits de première nécessité seront a priori davantage utilisés par les familles les plus modestes et par les familles populaires. C'est le riz, les pâtes, les produits hygiéniques, les couches pour les bébés. On sort totalement la TVA. Donc, on a des mesures extrêmement offensives pour rendre du pouvoir d'achat aux Français plutôt que finalement de leur casser les jambes d'un côté avec 60% de taxes et de leur offrir une béquille de l'autre avec un chèque.
Jordan Bardella, urgence sociale sans le moindre doute. Urgence, compte public aussi, selon Bruno Le Maire. Est-ce que l'inquiétude par rapport au compte public, les déficits, la dette et ainsi de suite, ce n'est pas une préoccupation qui devrait aussi habiter le Rassemblement national?
Mais c'est la raison pour laquelle nous avons réclamé tout au long de l'élection présidentielle que des économies de bon sens soient faites. Je veux dire, les Français qui nous regardent ne comprennent pas qu'ils aient toujours plus de mal à se chauffer, à se déplacer, à se soigner, et que de l'autre, on continue par exemple d'offrir les soins gratuits à la terre entière, qu'on continue d'avoir des centaines de milliers de personnes qui rentrent chaque année dans notre pays et qui nous coûtent beaucoup d'argent. Les Français qui nous regardent doivent savoir qu'aujourd'hui, quand vous arrivez en France, vous êtes étranger, vous avez plus de 65 ans, vous n'avez jamais cotisé en France, vous touchez un minimum de retraite de 800 euros. Mais c'est du délire, 800 euros, c'est parfois plus que ce que gagnent des agriculteurs ou des retraités ouvriers français qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire face. Il y a beaucoup de retraités qui vivent avec 7 ou 8 euros par jour dans notre pays. Donc il est là le bilan de l'injustice du gouvernement. Il faut faire des économies sur la fraude. Le magistrat Charles Prats a remis un rapport, plusieurs d'ailleurs. Il pointe 50 milliards d'euros de fraude sociale et fiscale par an. On pourrait mettre en place par exemple la carte vitale biométrique. On sait qu'il y a 7 millions de fausses cartes vitales qui sont en circulation. Il faut faire des économies sur l'Union européenne, parce que pendant qu'on met des embargos sur le pétrole et pendant qu'on tape les automobilistes au portefeuille, l'Union européenne continue de négocier des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Je vous rappelle ce que disait le Haut Conseil pour le climat. La moitié de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est pas les automobilistes français qui ont besoin de leur voiture, ce sont les importations, et ce sont donc les accords de libre-échange. Donc les Français n'y arrivent plus, et les agriculteurs, les chefs d'entreprise voient arriver sur le sol français des produits qui viennent de très loin, imbibés de pesticides, qui ne respectent ni nos normes sanitaires, sociales ou environnementales.
Donc, les économistes à chercher, selon vous, en tous les cas, dans le domaine de l'immigration sur le plan européen. On vous entend depuis le début de cette émission, Jordan Bardella, à la tête du Rassemblement national. Parfois, on précise par intérim, parce qu'on attend évidemment de voir qui occupera au final ce fauteuil. Il y a une course, semble-t-il, à la direction. Mis à part vous, il y a aussi l'appétit de Louis Alliot, que l'on cite. Est-ce qu'il peut y avoir un choc des visions à l'intérieur du RN, ou une émulation, hein? Il ne s'agit pas de vous mettre en confrontation, mais est-ce qu'il va y avoir plusieurs candidatures et puis une confrontation, une compétition saine?
Écoutez, nous réunissons le bureau national mardi afin de lancer et d'enclencher le processus qui doit aboutir au Congrès à l'élection de la nouvelle présidente du Rassemblement national. Vous savez que Marine Le Pen a annoncé qu'elle ne reviendrait pas à la présidence du RN pour se consacrer à la présidence du groupe à l'Assemblée nationale. Le Congrès aura vraisemblablement lieu à l'automne. Moi, je proposerais tout simplement aux adhérents que le chemin qu'on a tracé ensemble depuis un an avec Marine Le Pen, qui nous a amené à 42% des voix à la présidentielle, 89 députés, je pense que ce sont de belles victoires qui sont liées à la stratégie, à la campagne que nous avons faite depuis un an, que ce chemin-là soit poursuivi. Mais j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Louis, mais il n'y a pas de différence de ligne politique.
Il n'y a pas quand même des sensibilités.
Non, mais il peut y avoir des différences de parcours, des différences de profil, des différences de génération, des différences
de projet. Oui, mais de sensibilité. Est-ce qu'il n'y a pas des différences de sensibilité, de sensibilité plus sociale, plus identitaire, plus, etc.?
Non, enfin, de différences peut-être de projet qu'on portera pour le mouvement et pour le parti. Mais il n'y a pas de divergence de ligne politique. Et je pense que c'est là notre plus grande force.
Mais alors pourquoi deux candidats?
Deux candidats.
Moi, je ne sais pas s'il est candidat pour l'instant. Vous êtes peut-être mieux renseigné que moi.
Il a des
vérités,
il a des ambitions.
Mais s'il y a plusieurs candidats, je trouverais que dans un exercice de démocratie interne, c'est bien et c'est parfaitement sain.
Eh bien, nous le verrons dans quelques jours ou quelques semaines. Merci Jordan Bardella d'avoir répondu à nos questions. On marque une courte pause et on va retrouver sur Europe 1 et CNews François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR, et on lui posera certaines des questions auxquelles vous avez répondu et interpellations par rapport justement aux Républicains. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
On vous remercie d'être avec nous en direct ce dimanche sur Europe 1 et CNews avec notre partenaire Les Échos dans un paysage politique extrêmement bouleversé, on vous le disait en début d'émission, et peut-être à la veille d'un remaniement, en tous les cas il s'annonce imminent. Deux invités politiques, nous avons reçu Jordan Bardella, président du Rassemblement National, et on accueille à présent l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. On va démarrer, si vous le voulez bien, François-Xavier Bellamy, cette émission avec un sujet de fond. On vient de poser la question à Jordan Bardella. Un sujet qui n'est pas au centre véritablement du débat public. Le ministre de l'économie en a parlé il y a quelques jours, c'est la dette publique. Est-ce que vous considérez qu'il en va de notre souveraineté et qu'on a atteint, comme le dit Bruno Le Maire, la cote d'alerte ?
Bien sûr, il en va de notre souveraineté, de l'avenir de notre pays et de la génération qui vient. Et c'est assez surprenant d'entendre Bruno Le Maire dire que la France a atteint la cote d'alerte en matière de dette. On a un peu l'impression d'entendre Jérôme Carviel qui s'inquiéterait de la bonne santé de la Société Générale, parce que la vérité, c'est que c'est ce gouvernement qui a endetté la France comme jamais auparavant, avant même que les mesures Covid n'arrivent. C'est Emmanuel Macron qui, dans son discours d'Aix-la-Chapelle, avait dit « il faut en finir avec le fétichisme de l'excédent budgétaire et de l'excédent commercial ». Et donc, en fait, ce gouvernement, ce président de la République nous ont expliqué que c'était parfaitement normal de vivre dans ce monde irréel où la dette n'existe pas, ne coûte rien, est potentiellement infini. Et aujourd'hui, on se réveille, enfin, pour notre part, mais ça fait très longtemps qu'on parle de cette question.
On a le sentiment que personne n'est audible, en fait, sur ce sujet, parce que pendant la campagne présidentielle, effectivement, ce sujet a été mis un peu de côté, et même votre candidate n'en a pas tellement parlé. Est-ce que vous ne craignez pas ce risque, justement, de ne pas être vraiment audible ?
Ce serait, je pense, ne pas être juste envers notre famille politique que de dire que nous n'en avons pas parlé. Mais la vérité, c'est... De quel sujet avons-nous vraiment parlé pendant l'élection présidentielle, collectivement ? Quelles sont les grandes questions auxquelles nous nous sommes confrontés ? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, moi je vous le dis en étant tous les jours au Parlement européen, nos partenaires européens regardent la situation française avec inquiétude, parce que nous sommes en plein délire sur le plan budgétaire.
Délire, et dites-vous ?
Bien sûr, ça fait des mois maintenant, y compris dans cette période électorale, ce qui pose un problème démocratique, à mon sens, assez majeur. Y compris pendant les derniers mois, on n'a pas arrêté de distribuer des chèques. On les appelle comme ça, le chèque énergie, le chèque inflation, des chèques à tout point de vue. Et cette politique avait pour but, évidemment, de mettre la France sous anesthésie, alors que la réalité de notre crise, elle se fait de plus en plus sentir. La réalité de notre dépendance commerciale, notamment. Si nous payons beaucoup plus cher notre énergie, c'est aussi parce que nous sommes massivement importateurs, parce que nous avons cessé de produire, parce que nous avons cessé d'investir dans notre parc nucléaire, par exemple. Et donc, en fait, plutôt que de résoudre les problèmes à la base, eh bien, on a distribué de l'argent public. Et distribuer de l'argent public, ça veut dire, en réalité, entretenir les Français dans une fiction. Et cette politique, oui, je le redis, c'est une folie. Mais c'est une folie.
Est-ce qu'on peut poser la question de la dette sans poser au même moment la question du modèle social français ? C'est-à-dire, j'entends gaspillage, j'entends dépenses plus ciblées, dépenses plus intelligentes, mais en dernière instance, est-ce que le modèle social français ne s'accompagne pas inévitablement d'une dette considérable, colossale et peut-être ingérable un jour ?
Vous avez tout à fait raison. En tous les cas, le sujet, c'est celui de notre modèle économique, de notre modèle social, de notre modèle industriel.
Pas seulement les 5 dernières années.
Bien sûr, mais aussi des défis qui sont devant nous et les débats qui vont arriver. On parlait à l'instant sur votre plateau de la loi sur le pouvoir d'achat qui va venir dans quelques semaines à l'Assemblée nationale. La question du pouvoir d'achat, elle va évidemment se poser dans un contexte où l'inflation galope. Mais comment on répond à ce problème de pouvoir d'achat ? Il y a deux options. Soit on continue de dépenser et de donner des chèques aux gens, c'est-à-dire d'acheter le pouvoir d'achat d'aujourd'hui sur les générations qui viennent, parce qu'encore une fois, c'est de cela qu'il s'agit. Soit on poursuit dans cette fuite en avant, soit au contraire, ce qui est, à mon avis, le chemin que nous devons suivre, on fait en sorte que, si l'État a un effort à faire, ce soit celui de baisser les charges qui pèsent sur le travail. Il faut que le travail paye en France. Et vous avez raison de parler de modèle social. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation terrible où on gagne parfois à ne pas travailler plutôt qu'à, travailler.
Mais François-Xavier Bellamy, le temps que le travail paye et que ce que vous dites infuse nécessite quelques années, alors que là,
on peut le faire tout de suite. Si on baisse les charges qui pèsent sur le travail, on augmente mécaniquement la rémunération des Français. Il faut évidemment des mesures ciblées envers les plus précaires, envers les plus fragiles, ou bien envers les personnes qui ne sont plus en situation de travailler.
Vous accompagnerez évidemment, même si vous la dénoncez, cette politique d'échec, vous allez l'accompagner pour les plus modestes d'entre nous quand elle se pose de manière cruciale.
Je pense par exemple à la question des retraités, des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui n'arrivent plus du tout à s'en sortir, qui n'arrivent plus à faire face à l'explosion des prix de l'énergie. Je pense qu'on n'a pas encore vu le plus dur malheureusement, et donc il faut bien sûr accompagner ceux qui ne sont pas en situation de travailler parce qu'ils ont déjà cotisé pendant toute leur vie. Mais pour les actifs, et c'est je crois le sujet majeur, il faut absolument que l'effort de l'État ne consiste pas à continuer de multiplier les allocations de toutes sortes, mais au contraire, à redonner du salaire à ceux qui travaillent. Ce sera d'ailleurs aussi une manière de sortir notre pays de la situation aberrante dans laquelle nous sommes, ou alors que nous avons des millions de chômeurs en France, quelles que soient les modalités de calcul, vous avez des milliers d'entreprises qui vous disent que leur plus gros problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à recruter. Et pourquoi ? Je parlais encore hier avec le directeur de cabinet d'une collectivité locale qui me disait des gens s'arrêtent de travailler parce que dans la zone rurale où il est, eh bien, ils perdent de l'argent à aller travailler parce que le carburant coûte tellement cher que quand on a besoin de sa voiture pour aller bosser, on ne s'en sort plus. À cette réponse-là, encore une fois, je crois que le sujet n'est pas de subventionner le pétrole, de subventionner la consommation, mais de rémunérer le travail. C'est le sujet majeur pour nous.
Et la question, c'est qui pour le faire ? Parce que vous avez eu une comparaison, pour le moins, je cherche le mot, je dirais osé, entre Bruno Le Maire et Jérôme Carvel, chacun choisira son mot. Vous pensez que ce sont aujourd'hui des pompiers pyromanes ? Bruno Le Maire est un ministre de l'économie plutôt reconnu, qui vient aussi de vos rangs, où il y avait quand même un attachement à une certaine rigueur budgétaire, même une orthodoxie budgétaire. Vous pensez aujourd'hui qu'il est l'homme qui est en train de laisser filer les déficits ?
Mais c'est pas que je le pense. C'est pas que je le pense, c'est que c'est un fait. Encore une fois, si vous regardez le bilan du dernier quinquennat, et je fais évidemment attention de ne pas prendre en compte les mesures de relance face au Covid. Parce que face au Covid, il était normal que l'État engage des fonds publics de manière massive pour pouvoir soutenir les entreprises en difficulté et les ménages fragilisés. Le quoi qu'il en coûte avait une signification dans cette...
C'est des explications massives du niveau de déficit aujourd'hui.
Mais si vous regardez, Nicolas Barré, vous le savez très bien, si vous regardez le budget de la France avant que le Covid n'apparaisse sur la surface de cette planète, la France avait augmenté les dettes et les déficits publics plus que pendant le quinquennat de François Hollande. Donc, je ne sais pas où est passée l'attention pour l'orthodoxie budgétaire. Et d'une certaine manière, je n'en veux pas à Bruno Le Maire, puisqu'il travaillait pour un président qui expliquait qu'il fallait sortir, je le répète, du fétichisme de l'excédent budgétaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette formule ? Ça veut dire qu'il faut arrêter de croire que la dette est un problème. La dette, soi-disant, n'était plus un problème. La vérité, c'est que c'était une fiction, évidemment.
Ça voulait dire aussi, vous l'avez évoqué, qu'il y a un certain nombre de défis qui vont coûter très cher. L'hôpital, notamment, l'école. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels, là aussi, vous allez peut-être apporter des éléments différents par rapport à ce que propose le gouvernement, mais dans tous les cas, ça va coûter de l'argent.
Bien sûr, mais il y a un immense problème d'allocation des moyens budgétaires aujourd'hui. On voit bien que l'État est démuni dans toutes ses fonctions régaliennes. La sécurité, l'école, vous l'avez dit, l'hôpital, sur ces sujets-là, il faut évidemment remettre...
C'est un tableau plus noir que noir, ou est-ce qu'il est vraiment aussi noir que vous ne le décrivez à l'instant ? Parce que si l'école ne va pas, l'hôpital ne va pas, la dette est en folie, que reste-t-il ?
Cher Sonia Mabrouk, oui, je crois qu'on doit la vérité aux Français, et je crois d'ailleurs qu'on n'a même pas besoin de leur dire la vérité parce qu'ils la connaissent. Quand vous avez la moitié des services d'urgence en France qui sont obligés à des fermetures totales ou partielles, les Français savent très bien que nous traversons aujourd'hui une crise profonde. La question n'est pas de faire l'inventaire de cette crise, la question c'est comment on s'en sort. Et je vous le redis, pour moi, le sujet majeur, c'est d'abord le travail. Je crois qu'il y a en France, d'ailleurs, des réserves extraordinaires de générosité, d'inventivité, d'engagement. Il y a des gens qui bossent partout. Mais aujourd'hui, les gens qui bossent portent sur leurs épaules, avec le travail le plus chargé au monde, avec les prélèvements obligatoires les plus lourds de tout l'OCDE. Ceux qui travaillent aujourd'hui portent sur leurs épaules le poids d'un État qui n'a pas su se réformer depuis trop longtemps. Et de ce point de vue-là, toutes les familles politiques qui ont exercé le pouvoir partagent une responsabilité, c'est indéniable. Mais il est certain que le dernier quinquennat n'a pas permis de sortir de là. C'est en ce sens que je faisais cette comparaison. Je suis désolé, mais le ministre de l'économie qui a le plus endetté la France et qui s'étonne aujourd'hui qu'on ait atteint la cote d'alerte, oui, ça fait bizarre à entendre.
Le travail, question essentielle. L'école, question essentielle pour vous aussi. Comment avez-vous accueilli la nomination de Pape Ndiaye et que comprenez-vous de la vision de l'école qu'il propose pour le quinquennat ?
Je l'ai accueilli comme une catastrophe, je le dis comme je le pense, parce que je crois d'abord que l'école, c'est le sujet absolument majeur pour notre avenir. Il n'y a pas de sujet plus important. On parlait du travail, se remettre au travail, ça veut dire la quantité de travail qu'une société peut produire, mais c'est aussi la qualité du travail. Si on veut que la France relève la tête demain, si on veut qu'elle soit de nouveau capable de produire, de rayonner, d'exporter, si on veut garder notre souveraineté, notre capacité d'agir dans le monde, eh bien il faut que des générations bien formées arrivent aux responsabilités. On l'a appris encore il y a quelques jours, le niveau de mathématiques, c'est une confirmation, on le savait déjà, le niveau de mathématiques de nos élèves, c'est le dernier de toute l'Europe. Et voilà qu'on nomme au ministère de l'Éducation nationale un ministre dont la priorité, c'est d'expliquer que la France est coupable de racisme structurel. un ministre qui vient avec une idéologie très claire, je lui reconnais parfaitement le droit de la défendre, mais qui me paraît absolument contraire à ce dont notre école a besoin. Je crois que si l'école aujourd'hui est si inégalitaire en France, parce que nous avons l'école la plus inégalitaire de tout l'OCDE, ça n'est pas parce que la culture française est structurellement raciste, mais c'est parce que la culture française n'est plus transmise. C'est pour cette raison-là. C'est parce qu'on n'apprend plus aux enfants, quelle que soit leur histoire, à lire, à écrire, à compter correctement. C'est parce qu'on ne leur transmet plus les fondamentaux. Et maintenant, je vois le ministre qui écrit aux professeurs, je suis un professeur moi-même, j'ai lu sa lettre. Dans sa lettre, il dit, la priorité de l'école, c'est la bienveillance et verdir l'école. La bienveillance, la première des bienveillances, c'est encore une fois d'offrir à tous les élèves le meilleur et l'excellence de la transmission de notre culture, de leur offrir ce que nous avons à leur donner, à leur apprendre, et puis verdir l'école. Mais pardon, mais on est à l'Ouest.
Enfin, qu'est-ce que vous auriez mis alors comme priorité? Si c'était vous à la place de M. Papandiaï et que vous aviez écrit cette lettre au professeur, quelles auraient été les priorités de François-Xavier Bellamy, ministre de l'Éducation?
D'abord, je leur aurais dit à quel point leur travail est décisif pour notre avenir et leur travail, c'est de transmettre des savoirs. Il y en a assez qu'on demande aux professeurs et qu'on demande à l'école de résoudre tous les problèmes de la société. On demande à l'école, justement, de faire des bons citoyens éco-responsables. On demande à l'école de résoudre les problèmes d'inclusion. On demande à l'école de lutter contre le racisme. Le vrai travail de l'école, c'est d'apprendre à lire, à écrire, à compter, c'est de transmettre la connaissance de l'histoire, de la géographie de la France, c'est de transmettre les éléments fondamentaux de la culture et du savoir qui leur permettront ensuite.
Il faut le préciser de nouveau, comme si on avait perdu ce...
Mais bien sûr, je vais vous dire une chose, les professeurs aujourd'hui se sentent, les enseignants de notre pays, profondément déconsidérés. Ils sont déconsidérés d'ailleurs, et un symptôme qui le montre, c'est le niveau de leur rémunération qui s'est effondré si on le compare à la moyenne de l'OCDE, à l'évolution des salaires dans notre pays. Aujourd'hui, on commençait le métier d'enseignant avec 2,3 SMIC il y a 30 ans, on le commence aujourd'hui avec 1,3 SMIC. Donc c'est un signe aussi, c'est un symbole de la place que nous donnons aux professeurs dans notre pays. Et surtout, encore une fois, je le redis, moi j'ai été enseignant. J'ai vécu de l'intérieur ce que veut dire cet état d'esprit qui consiste à expliquer qu'il ne faut pas transmettre des savoirs. C'est le premier engagement public que j'ai eu, c'était d'écrire Les Déshérités pour dénoncer cette crise de la transmission. On m'a expliqué comme professeur qu'il ne fallait pas transmettre des connaissances, que les élèves devaient produire par eux-mêmes leur propre savoir et que c'était ça la bienveillance dont parle le ministre de l'Éducation nationale. Moi, je crois que la bienveillance consiste au contraire à redonner aux professeurs leur mission au service des élèves et leur mission, c'est de transmettre le savoir.
On a compris.
Un point, c'est tout. Pas de faire de l'école l'otage d'une idéologie quelconque.
Avec le gouvernement, mais ce n'est pas votre rôle. Lucidité peut-être de votre part, on verra en quoi vous ne serez pas aussi une opposition.
J'espère faire preuve de loyauté intellectuelle, et la loyauté intellectuelle suppose de dire la vérité en politique
et
aussi.
Et en quoi vous ne serez pas une opposition pavlovienne ou alors une opposition constructive? C'est aussi le chemin aujourd'hui, en tout cas les deux voies qui sont offertes au LR. On marque une courte pause, on va en parler avec vous.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et notre invité, le député européen Les Républicains, avant d'en venir justement à la situation des Républicains à l'Assemblée nationale, nous avons évoqué depuis tout à l'heure, François-Xavier Bellamy, les déficits publics, l'état de la France, l'école, autant de sujets très importants. Il y a aussi un autre sujet tout aussi important, en tous les cas majeur pour notre société, et un sujet qui a été importé, en tous les cas, à la polémique des États-Unis. Il s'agit de l'IVG. Alors, est-il besoin en France aujourd'hui de sanctuariser la loi Veil après le débat et la mise en cause aux États-Unis? Député à l'Assemblée, est-ce que vous voteriez son inscription dans la Constitution?
Pardon, mais tout ce débat est délirant. Et j'ai été sidéré de voir le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, le groupe de La République En Marche, commencer son mandat avec cette proposition. On vient d'évoquer la question du déficit budgétaire qui touche notre pays depuis longtemps et qui maintenant, d'après le ministre de l'Économie lui-même, nous pousse à atteindre la cote d'alerte. On vient de parler du déficit commercial, structurel, qui fait qu'aujourd'hui, notre pays devient un pays de consommateurs qui perd sa souveraineté et sa capacité d'agir. On a parlé de la crise sociale, de l'inflation, on a parlé de la crise de l'école. Nous sommes les derniers de l'OCDE en mathématiques et ça menace évidemment notre avenir. On peut parler de la crise environnementale. Il y a tellement de sujets aujourd'hui, à commencer par la situation géopolitique à la frontière avec l'Ukraine. J'étais, pendant que ce débat a commencé, il y a quelques jours, j'étais en Roumanie à l'invitation de mes collègues roumains. J'ai été rencontrer les militaires français qui sont en train de déployer un camp en Roumanie pour pouvoir venir en concours des forces roumaines dans un moment géopolitique extrêmement tendu. Et j'entendais l'actualité française en me disant, mais est-ce qu'on est devenu fou?
Pourquoi? C'est un sujet de diversion, je ne comprends pas. Quelle est votre position? Vous dites qu'on a importé cela
Mais c'est notre débat politique n'a plus rien à voir avec la réalité, mais plus rien. personne dans ce pays, aucune force politique ne remet en cause la loi Veil. La dernière loi sur cette question a consisté à étendre le délai d'avortement légal. Où est-ce qu'on voit qu'il y a besoin de remettre sur la table cette question? Et je crois que, pardon, mais ceux qui portent ce débat aujourd'hui, ceux qui poussent ce débat en avant, dans l'état du pays aujourd'hui, signent leur irresponsabilité politique absolue. Je n'en peux plus de cette vie politique délirante où on parle de tout sauf des vrais sujets. Vous avez raison de le mettre sur la table, bien sûr, parce que c'est dans l'actualité. Le fait que ce soit dans l'actualité est un symptôme de notre irresponsabilité collective.
Est-ce que pour vous, c'est une manœuvre politicienne ou est-ce que c'est un symptôme d'américanisation culturelle?
Il y a certainement le fait qu'on est aujourd'hui... D'ailleurs, quelle incroyable légèreté que de considérer que la Constitution française doit être modifiée à cause d'un événement aux États-Unis. On peut penser évidemment tout ce qu'on veut de cet événement, mais ça se déroule sur le territoire américain, dans la loi américaine. Ça n'a rien à voir avec les débats publics dans notre pays. Et vouloir toucher à la Constitution, qu'on ne devrait aborder que d'une main tremblante, parce que... Une décision a été prise par des juges à la Cour suprême américaine, dit quelque chose effectivement de la manière dont nous pouvons nous focaliser sur ce qui se passe outre-Atlantique. Et je crois que c'est un symptôme de plus parce qu'on en a déjà beaucoup trop. Mais fondamentalement, je crois surtout que c'est le signe, encore une fois, de l'irresponsabilité totale de ces élus, de ces responsables politiques, supposément bien. Responsables,
alors, mais qui en fait parlent de tout sauf des vrais sujets. Sur le fait qu'on puisse toucher ou qu'il faille sanctuariser la loi Veil. Vous pensez qu'il n'y a pas de danger en France? C'est ça la question.
Mais Sonia Mabrouk, quel parti politique aujourd'hui remet en cause la loi Veil?
Alors vous parliez d'irresponsabilité sur un autre sujet. Juste avant vous, le président du Rassemblement National accusait les députés LR d'avoir préféré qu'un insoumis soit élu à la tête de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale plutôt qu'un des leurs, plutôt que le candidat du Rassemblement National. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Et j'ai entendu ce que disait Jordan Bardella. Je voudrais simplement rectifier l'impression qu'il a peut-être laissée dans l'esprit des auditeurs. À aucun moment, évidemment, les députés LR n'ont voté pour le candidat insoumis, parce qu'il en était quasiment à expliquer que, entre les deux candidats, LR avait préféré Éric Coquerel. Ça n'a aucun sens. Les élus de droite ont défendu leur candidat, et pour le reste, aucune arithmétique ne permettait, avec les voix de LR, de faire élire le candidat du Rassemblement National.
Ni même
national.
Une stratégie politique.
Ah, c'est ce qu'il
conteste. Si on sort de l'arithmétique, est-ce qu'un laisser-faire politique a fait que, eh bien,
non,
c'est la NUPES
qui a remporté ce point? LR aurait pu prendre une autre décision que de soutenir son propre candidat. Et encore une fois, LR n'a pas soutenu le candidat de la NUPES. La situation n'aurait pas été différente. La vraie responsabilité de cette affaire, on en a beaucoup parlé. Je pense que les rouages de l'Assemblée nationale n'ont pas forcément beaucoup de pertinence pour aborder les questions de fond qui sont devant nous. Mais la vraie responsabilité de cette situation qui est quand même révélatrice, elle appartient à la NUPES, qui est en réalité une espèce d'alliance baroque qui n'est pas un groupe politique, mais qui sait se coaliser quand il le faut. La vérité, je comprends très bien ce que dit Jordan Bardella, c'est que le poste de président de la Commission des Finances devrait revenir au plus important groupe d'opposition de l'Assemblée nationale, et ce groupe d'opposition, c'est le Rassemblement national. Ce qui a empêché que ce soit le cas, c'est que la NUPES, qui n'est pas un groupe, a décidé, quand ça l'arrangeait, de se comporter comme un groupe. Et j'observe d'ailleurs qu'on voit par là le républicanisme à géométrie variable des forces de gauche et d'extrême gauche qui savent donner des leçons de démocratie quand elles veulent, mais qui sont tout à fait capables de s'arranger quand elles y trouvent leur intérêt pour jouer avec les règles, notamment les règles du Parlement.
Mais inversons le regard, est-ce que de votre... Parlant de la présidentielle, on parlait des républicains et des extrêmes, vous connaissez la rhétorique. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la NUPES représente, et plus particulièrement la France insoumise, représente un plus grand péril que le Rassemblement national? Ou pour vous, est-ce que vous les ramenez dos à dos, ces deux extrêmes?
Non, je ne les ramène pas dos à dos. Je crois que la réalité, c'est que... bon, d'abord, on ne va pas rejouer le jeu du deuxième tour de la présidentielle alors qu'on est maintenant à la fin de cette séquence électorale.
On vous pose, dans le cadre de l'Assemblée, est-ce que Rassemblement National et NUPES sont sur le même plan? Vous dites non.
Est-ce qu'il y a une proximité intellectuelle plus grande entre le LR et le RN qu'entre LR et LFI?
Mais évidemment, sur certains sujets, nous avons des désaccords avec le RN. J'entendais Jordan Bardella parler de la question du pouvoir d'achat et il en parle bien souvent comme le font les députés de gauche ou les députés d'extrême-gauche, avec l'idée que ce qui compte, c'est d'abord d'augmenter encore les prestations sociales qu'on évoquait à l'instant. Cela étant dit, ma position est très claire. Je vous ai répondu sur ce point. Dans ce cas précis, il me semble que aussi bien l'arithmétique de l'Assemblée nationale, les règles parlementaires qui s'appliquent, auraient dû conduire à confier la présidence de la Commission des finances au plus grand groupe d'opposition qui se trouve à celui du Rassemblement national. Pour le reste, la preuve que les Républicains n'ont pas pratiqué d'obstruction à l'égard du Rassemblement national, c'est que deux vice-présidents du Rassemblement national, comme vous le savez, ont été élus au bureau de l'Assemblée. Et je pense que c'était d'une certaine façon légitime que le Rassemblement national y soit représenté. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point.
François Xavier Bellamy, il y a le domaine politique et les attaques politiques à l'encontre d'Éric Coquerel, nouveau président de la Commission des finances. Et puis, il y a aussi le domaine des violences sexuelles avec des accusations, pas encore de plainte, il faut le préciser. Et cela a conduit Éric Coquerel ce matin dans le journal de dimanche à se défendre, à dénoncer le poison lent de la rumeur. Comment vous réagissez à cela aujourd'hui ?
Bon, d'abord, écoutez, c'est terrible qu'on soit en permanence ramené à ces sujets dramatiques. La première chose qu'il faut dire, c'est évidemment que dans une société vraiment humaine et dans une démocratie vraiment mature, on devrait être capable de laisser tout cela derrière nous et le comportement des hommes à l'égard des femmes devrait être irréprochable. On ne doit avoir aucune espèce de tolérance avec toute espèce d'atteinte à ce principe. Maintenant, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est quand même de voir à quel point on voit reculer peu à peu l'importance, dans une démocratie mature, de cette institution essentielle qu'est la justice. Quand il y a un litige, quand il y a un conflit entre des citoyens, c'est la justice qui doit les trancher. Pendant un certain temps, on a dit que si quelqu'un était condamné, il ne pouvait pas prétendre à une fonction politique. Ensuite, on a dit que quand quelqu'un était mis en examen, il ne pouvait pas prétendre à telle ou telle fonction politique. Et maintenant, c'est quand une plainte est déposée que le sujet commence à exister. Et on va encore plus loin avec l'idée que même sans aucune plainte, la simple rumeur devrait suffire, c'est ce que dit Rokhaya Diallo récemment, à disqualifier quelqu'un. Alors moi, ce qui m'étonne, et j'allais dire avec un peu de tristesse, ce qui m'amuse, c'est de voir là encore, les raisonnements à géométrie variable des forces politiques de gauche ou d'extrême gauche. Quand j'entends Madame Rousseau dire « Ah non, mais avec Monsieur Coquerel, il n'y a aucun problème, mais avec Monsieur Abad, il y avait un problème », on se dit que, évidemment, cette jurisprudence est intenable. Évidemment que ce qui compte, c'est que la justice fasse son travail.
Et quand le temps politique et médiatique phagocyte et va tellement plus vite que le temps de la justice, que fait-on ?
Est-ce que... Oui, mais vous savez, c'est extrêmement... Alors d'abord, ça suppose de réformer la justice pour qu'elle puisse aller plus vite, en effet, mais c'est extrêmement grave quand on prétend pouvoir court-circuiter la justice. On en revient à cette forme primaire d'interaction humaine qui est la condamnation par la rumeur, la condamnation par la foule, qui n'est rien d'autre qu'une espèce de pratique du lynchage. Alors même si ce lynchage a l'air plus civilisé quand il est pratiqué dans les colonnes des journaux, ça reste la même chose. Et quand j'entends dire qu'il faudrait condamner telle ou telle personne sur la base d'une rumeur, telle ou telle personne sans qu'aucune plainte ne soit déposée, je me dis que nous avons beaucoup reculé dans, encore une fois, notre maturité démocratique. C'est un sujet majeur parce que demain, on pourra empêcher qui que ce soit d'accéder à telle ou telle fonction en faisant circuler une rumeur. Et comme vous le savez très bien, le mécanisme de la rumeur est un poison extrêmement dangereux.
Il nous reste quelques secondes pour conclure peut-être sur l'avenir des LR. Le vôtre est-il lié ? Quelle personnalité, François-Xavier Bellamy, il a mieux même à même d'incarner la droite aujourd'hui ? Si on choisissait trois personnalités au hasard, Laurent Wauquiez, Édouard Philippe et tiens, vous-même, que répondriez-vous ?
Alors, à mon avis, ça ne peut pas être Édouard Philippe, parce que là encore, si on regarde le bilan de ce quinquennat, il n'a rien qui puisse convaincre un électeur de droite. Moi, si vous voulez, je prendrai mes responsabilités dans ce débat qui sera décisif.
La fameuse parole langue de bois, je prendrai mes responsabilités. On n'arrive toujours pas à décrypter ce que
pardon,
ça veut dire.
La formule est très belle. Elle veut dire j'assumerai mon rôle.
Ça n'empêche pas qu'elle soit langue de bois.
Non, pas du tout. Je ne dis pas que je veux être candidat à tout prix. Ce qui compte, c'est que notre famille politique se reconstruise. Si la ligne que je crois nécessaire pour cela n'est pas représentée dans cette élection, alors oui, je prendrai mes responsabilités.
Bien, je vous remercie, François-Xavier Bellamy. On suivra tout cela avec intérêt, évidemment, dans ce paysage politique bouleversé. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Et je tiens à remercier, évidemment, mes camarades Mathieu Bock-Côté, Nicolas Barret pour cette année passionnante. À leur côté, à l'animation du Grand Rendez-vous, avec tous ceux qui participent. Cédric Lastané, Naïma Benchemann et tant d'autres, évidemment, à la régie et dans cette rédaction Europe 1. C'était la dernière émission de la saison. On va vous retrouver avec plaisir et puis beaucoup d'appétit et d'appétence à la rentrée, à la même heure, avec la même équipe, si vous le voulez bien, messieurs.
Au très grand.
Bon été. On continue. Bon été et bon dimanche à vous. Europe 1.